Bonjour et bienvenue sur Art District dans l'émission Le Club Art District consacré aujourd'hui au mécénat culturel, notamment dans les domaines de la valorisation et la sauvegarde du patrimoine. Comment peut-on soutenir et valoriser notre patrimoine aujourd'hui? Qui sont les mécènes, les donateurs? Y a-t-il des solutions innovantes? Je reçois aujourd'hui autour de la table, pour parler de ce sujet, Lucas Lefebvre, chef de projet à la Fondation pour la sauvegarde de l'art français, accompagné de Marie Moutère, d'étudiante à Paris 4, en préparation du concours de conservateur du patrimoine. À ses côtés, eh bien, Jérémy Fretin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes business développeur ou chargé de développement, ça dépend un peu des goûts. En tout cas, chez Comeon.com, plateforme de crowdfunding. Et l'on attend Romain Prévalet qui devait se joindre à nous, mais il est dans les transports qui sont en grève, donc il est coincé. Donc on espère qu'il arrive tout à l'heure, peut-être en deuxième partie d'émission. Lui est archéologue, chercheur au CNRS et également fondateur de la start-up Culture Move qui crée et propose des outils de médiation culturelle innovants pour la valorisation du patrimoine. Alors on va commencer cette émission avec la chronique de Gaëlle Magnin. Gaëlle qui va nous dresser un petit état des lieux du mécénat culturel en France, voir un peu quelle est la définition de ce mécénat, peut-être même les tendances. Bonjour Gaëlle.
Bonjour Julie, bonjour à tous. Il est en effet difficile de se repérer dans le monde du mécénat culturel, de comprendre comment il fonctionne et réellement savoir en quoi il consiste. On connaît en effet tous l'idée de soutenir financièrement des artistes ou la construction d'un bâtiment, par exemple, mais en s'en approchant, cette notion paraît beaucoup plus complexe. Concentrons-nous alors d'abord sur la définition. Selon le ministère de la Culture, le mécénat se réfère à un acte philanthropique qui se traduit par le versement d'un don à un organisme pour une ou des actions d'intérêt général. Que l'on soit un particulier, une entreprise ou une personne morale du type fondation ou fonds de dotation, on peut tous être mécène. En contrepartie, le donateur peut bénéficier d'avantages dont le plus attrayant reste la défiscalisation, c'est-à-dire une réduction d'impôts. Il y a aussi plusieurs façons de devenir mécène, soit par le financement d'un projet, soit en choisissant le mécénat de compétences, autrement dit apporter de l'aide à un projet par l'offre d'un service ou par l'apport de matériel ou de main-d'œuvre par exemple.
Alors concernant le mécénat culturel justement, où se situe-t-il par rapport à d'autres domaines?
Alors le mécénat culturel représente aujourd'hui environ 24% du mécénat total, après le mécénat social, le sport, la santé ou l'environnement. Il représente 15% du budget total du mécénat, soit environ 500 millions d'euros par an, et les actions les plus favorisées concernent la préservation du patrimoine bâti et paysager, justement, la musique et les musées.
Alors justement, oui, le patrimoine bâti et paysager, le patrimoine culturel en général, ça nous intéresse dans cette émission, puisqu'on va en parler un peu plus longuement juste après avec nos invités. Alors, à ce sujet, justement, un peu plus de précision.
Eh bien, le patrimoine français aujourd'hui sollicite largement le mécénat, notamment en recourant à des campagnes de financement participatif et d'autres idées originales de la sorte. C'est le cas, par exemple, des grands châteaux français. Fontainebleau lance en ce moment même une campagne d'appel aux dons avec la Fondation du patrimoine. Depuis janvier, Chambord sauve son escalier grâce à ce même type de campagne. Versailles est également recouvert d'une pluie de mécènes. Dior s'occupe de la Maison de la Reine, la Fondation Philanthropia de la Chapelle Royale, mais aussi la Banque Lombard-Odier, le groupe Renault, Saint-Gobain ou encore la Fondation Emmerich. Et tout ceci sans oublier ses projets de financement originaux. En effet, si on a 10 000 euros à dépenser, on peut adopter une statue versaillaise ou encore parrainer un banc ou un buste.
Alors, est-ce que l'État organise et encourage ce type de mécénat?
Alors, un homme doit porter secours au patrimoine français, organiser le mécénat et, si l'on suit strictement les ordres donnés, identifier le patrimoine immobilier français en péril et chercher des solutions innovantes pour assurer le financement des travaux indispensables à leur remise en état. Cet homme, c'est Stéphane Bern, vous l'aurez deviné. Il endosse ce rôle pour quelques années. Il vient d'ailleurs de publier une première liste de monuments à sauver d'urgence. Une chose est sûre, le mécénat a le vent en poupe. On voit d'ailleurs fleurir des campagnes de crowdfunding dont le sujet témoigne de l'intérêt des Français pour leur patrimoine. Mais n'y a-t-il pas un mécénat à deux vitesses? Celui très médiatisé, tourné vers des projets de prestige, et celui d'un autre côté plus discret, moins conséquent, difficile à obtenir pour les projets moins connus, mais souvent tout aussi précieux. Cependant, au vu du manque de fonds publics, le mécénat n'est-il pas le réel sauveur du patrimoine aujourd'hui?
Merci beaucoup Gaëlle, on va essayer de répondre à cette question. Merci pour cet état des lieux qui a justement fait un focus un peu sur le domaine de la sauvegarde du patrimoine. Avec nos invités, on va s'intéresser à des exemples en particulier afin de comprendre un peu les contours de ce mécénat, voir ses enjeux, ses tendances. Alors justement, Lucas Lefebvre, vous êtes chef de projet. Bonjour, merci d'être ici avec nous. Vous êtes chef de projet à la Fondation pour la sauvegarde de l'art français, qui est d'ailleurs une fondation depuis récemment. Avant, c'était une association, je crois. Alors, vous allez nous expliquer peut-être un petit peu ce changement, mais je précise que vous êtes chargé du projet Le Plus Grand Musée de France, qui est un projet qui existe depuis 2013, donc au long cours, hein, une campagne au long cours pour défendre du petit patrimoine, on peut dire ça comme ça. Justement, on va essayer un peu plus de parler de ce petit patrimoine aussi dans cette émission, un peu moins connu du grand public, mais tout aussi précieux, comme le disait Gaëlle. Et pour cela, eh bien, vous associez des écoles, des universités, notamment la Sorbonne et Sciences Po, pour confier à des étudiants une mission de sauvegarde d'une œuvre d'art. Alors voilà, parlez-nous un petit peu, un petit mot peut-être pour présenter la sauvegarde, et puis ensuite on ira un peu dans le détail de ces projets avec justement Marie Mouter, qui est là, qui est étudiante et qui va nous détailler aussi son projet.
Exactement. Alors, tout d'abord, merci de me recevoir, de nous recevoir, puisque vous le soulignez, je suis accompagné de Marie Mouter, qui est étudiante à la Sorbonne Paris 4. Quelques mots rapidement sur la sauvegarde de l'art français. Donc, vous le mentionnez, on est une très vieille organisation. On a été fondée en 1921. Et le but de notre association à l'époque était de préserver, protéger les richesses de France, puisque dans un contexte d'après-guerre assez difficile, l'État avait du mal à protéger certaines œuvres d'art, certains édifices, qui étaient à l'époque démontés, revendus à l'étranger et remontés dans d'autres pays, c'est notamment le cas aux États-Unis.
Donc l'idée c'était pour garder finalement ce patrimoine national aussi.
De conserver le patrimoine français en France, et la logique de l'association à l'époque avait été assez originale, ça avait été la volonté du fondateur qui était le duc de Trévise, il était parti à l'international et notamment aux États-Unis pour convaincre ces fameux acheteurs américains qu'il était plus intelligent de conserver le patrimoine en France, dans son lieu d'origine, plutôt que de l'acheter pour le ramener aux États-Unis. Donc voilà le point de départ de notre organisation, fondée en 1921 et reconnue d'utilité publique dès 1925. Il y a une deuxième date clé dans l'histoire de notre maison, qui est l'année 1972, qui est l'année à laquelle la sauvegarde de l'art français a pu bénéficier d'un legs très important de sa deuxième présidente, la marquise de Maillé, en vue justement de pouvoir apporter une aide aux édifices en péril à travers la France.
Donc là, c'était plutôt du patrimoine bâti à l'origine, c'est ça ?
Exactement, c'est tout à fait ça. L'idée était d'avoir de l'argent qui, chaque année, puisse être fléché pour la restauration des petites chapelles et des petites églises rurales. Alors à l'époque, trois critères ont été mis en place pour justement l'allocation de ces budgets. Des églises antérieures au 19e, des églises non classées, puisqu'on partait du principe en 1972 qu'un bâtiment classé était un bâtiment sauvé puisqu'il pouvait bénéficier des subventions de l'État, ce qui est malheureusement plus forcément le cas aujourd'hui. Et enfin, un financement consacré pour des travaux de restauration de gros œuvres. Et donc, depuis plusieurs décennies, la sauvegarde de l'art français consacre entre 1 million et 1,5 million d'euros par an pour la restauration donc, de ces petites églises et petites chapelles rurales, ce qui en fait le premier mécène de ce type d'édifice à travers la France.
Oui, on parle de patrimoine religieux.
Exactement.
Dans la majeure partie, ou exclusivement d'ailleurs.
Concernant l'aide qu'on apporte au patrimoine bâti, au patrimoine immobilier, c'est exclusivement des églises et des chapelles. Donc on est sur du patrimoine religieux. Néanmoins, donc vous le soulignez dans votre introduction, on a lancé en 2013 une campagne intitulée « Le plus grand musée de France ». L'objectif est, elle, d'apporter une aide au patrimoine mobilier et aux œuvres d'art. Alors c'est une opération qui est née d'un constat finalement assez simple, celui que l'ensemble de nos régions, départements, petites communes regorgent de dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'œuvres d'art, et que malheureusement beaucoup d'entre elles sont dans un état qui nécessiterait l'intervention d'un restaurateur. Un constat qu'on a pu faire notamment en aidant nos fameuses petites églises à travers la France entière, puisque beaucoup de ces œuvres se situent dans des églises et dans des chapelles. Donc l'idée est née de mettre sur pied une opération permettant de sauvegarder, de restaurer ces œuvres d'art en péril. Donc en 2013, on a lancé le Plus Grand Musée de France. Donc le nom de l'opération, c'est une sorte de clin d'œil, c'est l'idée de dire que finalement le Plus Grand Musée de France, c'est pas telle ou telle institution, telle ou telle organisation, mais finalement l'ensemble du territoire français. Donc on a lancé cette opération en 2013 pour justement mobiliser des jeunes sur cette cause et essayer de récolter des fonds, trouver des mécènes pour permettre la restauration des œuvres en question.
Marie Moutarde, je me tourne vers vous. Merci beaucoup d'être ici. Donc, vous accompagnez Lucas Lefebvre qui vient de nous présenter la sauvegarde pour l'art français. Vous faites partie justement de cette campagne Le plus grand musée de France. Vous avez en charge pour mission de restaurer une œuvre d'art. Vous êtes étudiante à Paris 4 en préparation du concours de conservateur du patrimoine. Alors, expliquez-nous comment vous avez choisi cette œuvre, comment vous avez aussi entendu parler de ce projet du plus grand musée de France.
Oui, merci beaucoup de m'accueillir. Et donc la sauvegarde de l'art français donc a créé cette campagne comme Lucas l'a expliqué. Et cette année, c'est la première année que la Sorbonne est invitée à collaborer avec la Fondation pour ce projet. Et donc, à la rentrée en septembre, notre professeur nous a présenté ce projet et l'intérêt que nous avons avec Léonore et Mathilde.
Vous êtes trois sur
voilà,
ce projet.
On est trois en équipe pour ce projet. C'est vraiment de découvrir tous les aspects de mener finalement une restauration d'une œuvre. Et donc, nous avons été très intéressés par cette campagne. Et donc, la première étape était de trouver une œuvre. Et nous sommes donc partis à la recherche d'une œuvre déplorée et qui avait besoin de notre motivation pour être restaurée. Et donc, chacune un peu de notre côté, nous avons cherché en région parisienne pour des questions un peu logistiques. Et voilà, on est parisienne, on prépare le concours. C'est vrai que ça demande du temps, mais...
Parce que même à Paris, il y a des œuvres qui ont besoin de restauration.
Tout à fait. Et donc, un des critères était que l'œuvre doit être accessible à tous, en fait. Donc, le plus grand musée de France est que... Enfin, a comme aussi critère de trouver des œuvres qui puissent être vues par tous.
Et qui sensibilisent aussi le public, c'est-à-dire que si vous restaurez, effectivement, si vous arrivez à votre mission, eh bien, le public pourra ensuite admirer une œuvre restaurée. Donc voilà. Ce sont des lieux, vous voulez dire, qui sont accessibles au public.
Tout à fait. Et donc, au départ, moi, j'étais en stage chez Christophe. Et donc, j'ai d'abord essayé de chercher les œuvres Christophe qui étaient un peu accessibles à tous dans Paris. Et donc, on a trouvé une petite statue de Saint-François d'Assise dans l'église Saint-Louis en Lille à Paris. Et puis, c'est Léonore qui a pensé à l'hôpital de la Salpêtrière, qui recèle aussi de trésors. Mmh. Et c'est elle, la première, qui est rentrée dans l'église et qui a rencontré finalement le frère qui accueille les personnes qui veulent rentrer dans cette église et qui lui a parlé de tous les trésors qu'il y avait dans cette belle église de la Salpêtrière.
Et là, vous êtes tombée sur la statue de la déploration du Christ.
Tout à fait.
Une statue du XVIIe siècle.
Voilà.
Alors, ça a été une révélation ?
Oui, ça a été une révélation parce qu'elle est belle d'abord. Et c'est ce qui nous anime tous, je pense. C'est d'abord la beauté de l'art et comment elle a réussi à nous toucher. Et puis aussi par son intérêt historique et de restauration, bien sûr. Donc, cette statue est en bois. Mm-hmm. Elle est peinte... et donne cet effet de marbre. Donc c'est d'abord un des intérêts de la restauration parce qu'on va établir avec la restauratrice des recherches et des analyses de polychromie pour savoir si elle avait été peinte polychrome ou si cet aspect d'imitation de marbre était la première volonté de l'artiste. Et aussi, il y a d'autres petites enquêtes autour de l'œuvre puisque... actuellement, le Christ est donc allongé, mort et porté à sa tête par un enfant. La Vierge est en déploration à part. Mmh. Et sur des anciennes photos du début du XXe, on voit un autre petit enfant qui tient les pieds du Christ. Et donc, un des objectifs de notre restauration et de cette valorisation de cette Pietà est de retrouver l'élément perdu et de pouvoir finalement... finaliser la restauration en créant une œuvre complète.
Et reconstituer cette œuvre d'art comme elle était en l'état à l'origine quand elle a été créée. Alors l'idée aussi, en vous écoutant, c'est de comprendre que effectivement il y a beaucoup de trésors un peu cachés, que certains sont oubliés. C'est-à-dire que sans vous, finalement, cette Pietà, malheureusement, aurait peut-être été définitivement oubliée et avec évidemment de la poussière et puis se serait dégradée en fait.
Voilà.
Donc, peut-être Lucas, vous voulez voilà,
peut-être même,
répondre
en fait,
à ça.
Peut-être même le premier objectif de cette opération quand on l'a conçue, c'est un objectif de découverte, c'est-à-dire envoyer des étudiants à la recherche d'œuvres d'art et ensuite à la recherche de mécènes pour permettre leur restauration. Et donc finalement mettre en lumière des œuvres parfois oubliées, les mettre en lumière auprès du grand public, parfois même auprès des villageois qui habitent la ville où se situe l'œuvre en elle-même. Ça nous arrivait plusieurs fois de contacter des maires, de leur dire voilà, vous avez cette magnifique toile dans l'église du village, cette magnifique statue dans le parc communal, et d'avoir des interlocuteurs qui n'étaient pas forcément au courant de la valeur artistique, historique, culturelle, du bien qu'ils avaient parfois juste devant leurs yeux.
D'ailleurs, l'Association des maires de France est partenaire, je crois, de cette campagne,
exactement,
Le plus grand musée de France. C'est aussi pour leur signifier que peut-être, quelque part, dans leur ville, il y a un petit trésor à conserver.
C'est exactement l'idée de mettre en lumière ces œuvres parfois oubliées, parfois dans des états qui demanderaient l'intervention d'un restaurateur. Et également dans une logique d'appropriation, que les gens se rendent compte aussi que ces œuvres qui appartiennent aux communes, finalement appartiennent à chacun. Elles sont accessibles dans des lieux à tous. Et de les laisser finalement se détériorer, de ne rien faire pour ne pas les restaurer, c'est la responsabilité de chacun. Et donc c'est aussi le but de notre opération, au-delà de la restauration même et de la sauvegarde même de l'œuvre.
Oui. Alors Marie, pour finir un petit peu justement sur cette mission, on va parler de l'appel aux dons, parce que c'est une partie importante, je crois, de votre mission en tant qu'étudiante. Puis on parlera en plus un peu plus en détail des différents appels aux dons qui existent dans le mécénat culturel en France aujourd'hui. Mais voilà, l'idée, c'est que votre mission, au-delà évidemment en tant qu'historienne de l'art, vous apprenez énormément de choses, j'imagine. Voilà, sur vous enquêtez, enfin, oui, donc c'est passionnant. Mais il y a aussi cette mission, voilà, il faut aller chercher des fonds. Alors, est-ce que vous rencontrez des entreprises? Comment vous faites? Est-ce que vous allez toquer à la porte? Comment réagissent les mécènes?
Oui, alors tout d'abord, on a essayé de contacter toutes les personnes autour de nous et qui pourraient donner un peu d'argent pour la restauration.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle la love money. Hein,
voilà.
C'est-à-dire, papa...
L'entourage très proche, qui va soutenir facilement.
Une fois qu'on a fait le tour des amis et de la famille, comment
ensuite,
on fait?
Ensuite, voilà, on a essayé de contacter des galeristes de sculptures anciennes. Et une nous a répondu, Gabriela Sisman, qui a sa galerie à Paris et qui nous a donné un don pour la restauration et qui aussi a levé des découvertes historiques sur l'œuvre. Mais après, c'est vrai qu'on a aussi organisé un événement pour en fait, donner envie aux personnes qu'on contacte et aux entreprises qu'on contacte de voir l'œuvre et d'avoir un premier contact avec l'œuvre. Donc un concert qui a lieu début mai.
Alors un concert, ouais, voilà. C'est intéressant parce que c'est aussi une manière de sensibiliser autrement, faire des événements, ça motive aussi plus
oui,
l'acte de donation. Et en plus, c'était dans le lieu même où est conservée cette œuvre d'art. Devant la Pietà, donc à la Pitié-Salpêtrière, dans la chapelle Saint-Louis, je crois, c'est
oui.
ça. Et donc là, combien vous avez récolté avec ce concert?
On a eu un gros don de 1000 euros. Et pour l'instant, on a en fait, post-concert, on a des dons qui arrivent. Je pense que les personnes qui sont venues ensuite ont fait leur démarche en ligne, etc. Et pour l'instant, on arrive à peu près à la moitié du budget final.
C'est-à-dire le budget final, vous recherchez combien?
On recherche 5310. Et là, on est à 2430.
Voilà, alors ça, c'est un appel aux dons qui se fait sur le site même de la sauvegarde pour l'art français.
Exactement, on a sur notre site internet la possibilité de faire des dons qui sont directement affectés au projet de restauration. Donc si vous allez sur le site de la sauvegarde, vous avez la possibilité de voir la magnifique Pietà en photo, très bien décrite par Marie. Et c'est vrai que le concert a été pour nous une très belle opération, puisque ça a permis, de mettre en lumière un lieu qui n'est pas forcément connu dans Paris, à savoir la chapelle, qui est absolument magnifique. Deux, de mettre aussi le projecteur sur cette magnifique Pietà, et de récupérer des dons, de médiatiser le projet, puisqu'il y a aussi certaines personnes qui n'ont pas pu venir et qui n'ont pas pu se rendre à la performance artistique délivrée par notre quatuor de cuivre, mais qui ont adhéré à la philosophie philosophie du projet, qui ont trouvé la démarche séduisante et qui ont justement fait des dons directement sur notre site après.
Donc Marie, vous êtes satisfaite et vous continuez évidemment vos recherches pour cette Pietà. Est-ce que moi, si j'ai envie d'aller voir la Pietà, là demain, je peux y aller?
Oui.
Ok, bon bah
c'est
super.
Ouvert de 9h à 18h et vous pouvez aller l'admirer.
Voilà, parce que c'est aussi, effectivement, si on a envie de faire un don, pourquoi pas aller voir l'œuvre in situ pour être touché aussi par cette œuvre d'art. Alors, 300 étudiants à peu près, je crois, ont participé depuis 2013. Je donne quelques chiffres. 300 000 euros levés,
c'est ça.
C'est des chiffres que j'ai trouvés sur votre site internet. Et 40 œuvres restaurées à peu près.
C'est ça, on est sur une quarantaine d'œuvres restaurées. En réalité, c'est un peu plus puisqu'on a certaines œuvres qui sont actuellement en atelier de restauration. D'autres qui sont sur le point de partir en atelier de restauration. Et d'autres de la campagne Le Plus Grand Musée de France de cette année, dont la souscription est quasiment achevée. Et qui, on le sait, pourront partir en restauration dans les prochains mois. Donc en réalité, c'est un chiffre qui est un peu plus supérieur à celui qui est annoncé sur notre site internet. Et une petite précision concernant donc le type d'œuvre d'art restauré dans le cadre de cette campagne, on accepte vraiment tout type d'œuvre, autant sur la partie protection du patrimoine mobilier, on est vraiment centré sur les églises et les chapelles, mais sur la partie du Plus Grand Musée de France, on a aussi bien de l'art sacré de l'église et chapelles, on a aussi des statues qui se trouvent dans des parcs. Oui. On a cette année une sculpture de Marianne Peretti qui se trouve sur la place Oscar Niemeyer du Havre, donc de l'art contemporain. Oui. Donc on a vraiment des styles, des œuvres totalement différentes, et c'est ce qui fait aussi la richesse de cette campagne.
Alors il y en a pour tous les goûts, donc appel aux dons. Je me tourne vers vous, Jérémy Fretin, vous êtes donc business developer chez Comeon.com. Comeon, c'est une plateforme de crowdfunding pour lever... c'est du mécénat participatif en fait. Ça permet à des porteurs de projets de lancer leur campagne pour récolter un montant de dons qu'ils souhaitent. Vous avez aussi beaucoup de projets concernant la restauration, la sauvegarde du patrimoine culturel. J'imagine que ça vous a intéressé, interpellé de connaître ce projet-là également. Aujourd'hui, vous en avez beaucoup. Avant, vous étiez Culture Time, donc vous étiez plus versé justement sur le mécénat culturel. Maintenant, vous êtes un peu ouvert, mais vous avez toujours cet intérêt pour le patrimoine culturel. Combien de projets vous avez? Est-ce que vous aussi, vous soutenez des œuvres ou des bâtiments ou des lieux un peu moins connus?
Oui, alors merci Julie de m'avoir convié à intervenir aujourd'hui. Donc Comeon, effectivement, c'est un site de mécénat participatif sur lequel chacun peut contribuer dès 10 euros et en 3 clics au financement de projets d'intérêt général dans le secteur du patrimoine et culturel à l'origine, puisque c'était notre spécialité à la création de l'entreprise en 2014. Et puis il y a maintenant un an et demi, on a ouvert notre approche à l'ensemble des secteurs d'intérêt général. Et aujourd'hui, on peut aussi bien retrouver des projets de fondation dans la recherche médicale, que des projets dans le domaine de l'éducation. Voilà.
Alors pourquoi vous restez si attaché au projet concernant la sauvegarde du patrimoine sur Comeon?
Parce que déjà, on le sait tous, je crois, on est très convaincus ici aujourd'hui, ce fait, c'est que les Français sont très attachés à leur patrimoine et il y a un vrai, il y a un énorme besoin.
Vous direz vraiment qu'il y a un besoin, c'est-à-dire qu'on peut pas seul en essayant la voie des subventions publiques.
Non, c'est la raison pour laquelle les porteurs de projets viennent nous voir aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le crowdfunding s'est développé parce qu'il y avait un besoin de diversification des ressources de ces structures-là dans le domaine patrimonial, parce qu'il y avait aussi un besoin de valoriser les métiers, valoriser ces structures et ces lieux qui sont parfois méconnus ou inconnus du grand public. Et puis il y avait aussi une envie, je pense, de rentrer dans une forme de relation un petit peu différente entre un lieu et ses usagers. Et ça, le crowdfunding permet de le faire de manière assez puissante et efficace. Et c'est un levier qui a montré, on va dire, son efficacité, puisque depuis en 2017, c'était plus de 330 millions d'euros qui ont été collectés en France sur le financement participatif. Et la culture, c'est quasiment sur la partie dons à peu près 50% des types de projets qui sont des montants levés sur ce type de campagne. Et le patrimoine, bien sûr, est un secteur qui marche très bien sur le financement participatif parce qu'il y a des besoins énormes et parce qu'il y a une diversité aussi de l'offre qui est assez incroyable.
Alors, est-ce que Stéphane Bern est venu vous voir?
Yeah. Alors, il est venu nous voir, on l'a vu, on l'a plutôt vu, on va dire, au Salon du patrimoine l'année dernière. Effectivement, il y a cette mission, elle est intéressante, voire essentielle, puisqu'elle permet d'associer un personnage public qui a une personne publique qui a déjà une forte notoriété, une légitimité aussi à se positionner sur ces questions et à porter la cause de la défense du patrimoine. Et bon, aujourd'hui, on n'est pas associé particulièrement à cette démarche-là, mais je pense que c'est dans tous les cas plutôt bénéfique pour le secteur, parce que ça permet de valoriser là aussi, enfin de mettre en avant ce besoin de plus en plus important de contribution de chacun à ces projets de sauvegarde du patrimoine. Et voilà, il y a de la place pour tout le monde pour participer à ce type de démarche.
Alors Romain Prévalet, on parle beaucoup de valorisation là, avec Jérémy Fretin et puis Lucas Lefebvre et Marie Moutarde qui sont là. Merci beaucoup d'être ici. Vous avez réussi à arriver, parce que je vous ai présenté au début en disant que vous étiez coincé dans les transports.
Je suis bien là, c'est bon.
Merci beaucoup d'être là. Donc vous êtes archéologue de formation, chercheur au CNRS, également fondateur de la plateforme Culture Move, qui en fait permet de créer, enfin qui crée des outils innovants en médiation culturelle pour la valorisation du patrimoine. Alors, quel regard vous avez, vous, aujourd'hui, justement, sur comment on fait pour valoriser ce patrimoine aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut plus d'innovation ? Voilà, et justement, est-ce que vous avez recours à des mécènes en tant qu'entrepreneur ?
Merci effectivement de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet. Donc, au sein de Culture Move, tout comme au sein de mes travaux de recherche, d'ailleurs, je m'intéresse à la préservation et à la promotion des patrimoines, et notamment des patrimoines méconnus, rares et même vernaculaires. Donc, en lien avec ce qui a déjà été dit auparavant. Au sein de Culture Move, en réalité, on essaye de mettre en place de nouvelles stratégies à la fois de médiation classique, mais également des médiations culturelles, scientifiques qui s'appuient sur des outils numériques et qui intègrent également les nouvelles pratiques sociales des publics, et notamment des publics ados et jeunes adultes. Donc, pour ne pas le nommer, on utilise beaucoup d'outils de marketing digital dans notre approche, et notamment dans les solutions numériques que l'on crée. Récemment, enfin, il y a quelques mois maintenant, nous avons lancé une application qui justement est dédiée à la valorisation d'œuvres, de lieux, d'archives, du patrimoine matériel ou immatériel, mais qui est plutôt méconnu et peu médiatisé ou valorisé de manière générale. Donc c'est une application effectivement qu'on fait vivre quotidiennement, et en parallèle on propose également un certain nombre de partenaires et notamment à des collectivités de les accompagner dans une nouvelle manière beaucoup plus proche des demandes des habitants, des salariés, des citoyens de leur territoire, justement une manière d'aborder, de découvrir, de redécouvrir le territoire en utilisant justement ces solutions numériques plus interactives, plus ludiques en particulier. Et dans le cadre de ces solutions que nous créons pour les collectivités, nous leur proposons d'autofinancer finalement le projet, en s'appuyant notamment sur l'animation de campagnes de financement participatif. Donc prochainement, en partenariat avec la ville de Saint-Denis et Coméon.
Alors justement, Coméon est là. Donc voilà. Voilà, donc vous allez avoir recours
exactement
au crowdfunding alors.
Ouais, tout
c'est
à fait.
Votre choix, voilà, c'est parce que vous pensez que c'est aujourd'hui une des façons les plus simples et les plus aussi larges pour toucher beaucoup de monde, de sensibiliser à ce genre de projet que vous créez, vous.
Eh bien là, le projet, donc c'est un projet de street gaming qui permet de redécouvrir le territoire et qui en fait intègre plusieurs partenaires institutionnels, mais également des acteurs économiques locaux, des groupes de travail scolaires, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir fédérer donc l'ensemble de ces acteurs, aussi bien autour de la, la mise en place du projet, de sa pérennisation sur les territoires, mais également de son financement. Et le mécénat
le financement participatif,
est une des solutions que l'on a privilégiées dans le cadre du lancement de ce projet, mais ce n'est pas la seule. On fait également appel au marketing digital pour financer ce projet et à d'autres actions.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est vrai, dans ce que dit Romain Prévalet, Jérémy Fretin, c'est qu'en fait, on voit qu'au début, quand les premières plateformes de crowdfunding se sont créées, c'était des particuliers, en fait, hein, qui y allaient, et puis ils n'avaient pas vraiment d'autres soutiens. Alors aujourd'hui, vous avez vu, évidemment, j'imagine, depuis peut-être 5 ans ou même plus, une évolution, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de partenaires institutionnels, de partenaires bancaires aussi. Vous avez créé, je crois, une opération qui s'appelle « Je donne, ça double » avec le Crédit Agricole. Donc, il y a toute une nuée, finalement, d'acteurs, autant publics que privés qu'institutionnels, qui se greffent aujourd'hui sur les campagnes de crowdfunding. Ça n'existait pas avant, ça.
Non, pas du tout. C'est vrai que, bon, comme tout secteur qui émerge, on a connu une phase, on va dire, de professionnalisation avec l'émergence de plusieurs plateformes, des plateformes spécialisées, des plateformes généralistes, qui ont développé une expertise dans l'accompagnement de ces campagnes de levée de fonds. Ce qui est effectivement intéressant, et vous l'avez souligné, c'est maintenant l'intégration d'entreprises dans ce type de dispositif. C'est l'objet de notre partenariat avec Crédit Agricole, donc qui est un partenaire historique du domaine de la sauvegarde du patrimoine. Hein. Ça a été l'une des premières entreprises en France à se doter d'une fondation qui était dédiée au soutien à des projets patrimoniaux. Et donc là, le principe de ce partenariat-là, il est très simple. C'est que les caisses locales du Crédit Agricole identifient sur leur territoire des projets patrimoniaux qui ont des besoins de financement. Nous accompagnons sur Coméon ces campagnes d'appel aux dons de manière à pouvoir générer de l'intérêt autour de ces projets et puis accompagner les porteurs de projets dans la collecte de fonds. Et pour chaque euro collecté via le grand public sur Coméon, le Crédit Agricole verse un euro supplémentaire et apporte aussi aux porteurs de projets un relais en communication auprès de ses propres communautés qui sont assez importantes, de manière à pouvoir générer un plus d'intérêt autour de ces démarches-là. Donc c'est vrai que c'est un exemple de partenariat, on en a d'autres, et on voit qu'il y a un véritable intérêt à on va dire faciliter une convergence, non pas des luttes, mais des intérêts privés et publics sur ce type de dispositif pour donner plus d'ampleur aux dons et puis valoriser les contributions de manière un petit peu innovante.
Alors, quelques exemples, par exemple, sur cette opération « Je donne, ça double », en ce moment, quel est le patrimoine concerné sur votre site Coméon ?
Alors, en ce moment, on a une campagne avec l'abbaye de Fontevraud qui va ouvrir une nouvelle salle d'exposition au sein de l'abbaye, donc un espace inédit qui a été aménagé spécifiquement pour recevoir des expositions, enfin, que soient organisées des expositions et organiser des événements. Donc là, une campagne où il y a un objectif de collecte de 15 000 euros qui a déjà été dépassé par l'abbaye, donc il y a une super opération qui est en cours sur Coméon. Un autre projet qui me vient en tête, qui était le premier projet de ce partenariat avec Crédit Agricole, c'était le projet de la restauration du théâtre Charles Dullin à Chambéry, qui était en partenariat avec la Caisse des Savoies du Crédit Agricole, où là donc l'objet était de participer à la restauration de ce théâtre qui avait été un petit peu mis de côté par les pouvoirs publics, du moins qui ne pouvaient pas être les seuls, à participer au financement de ce bâtiment, et qui a été une très belle opération et qui a permis de collecter un peu plus de 30 000 euros.
Alors, on parlait justement des acteurs qui peuvent se greffer autour de ces projets de campagne pour les restaurations du patrimoine aujourd'hui. Lucas Lefebvre, est-ce que vous aussi, vous sentez une évolution depuis 2013, donc depuis le lancement du plus grand musée de France par la fondation La Sauvegarde pour l'art français? Est-ce que vous sentez qu'il y a de plus en plus d'émulation, que finalement, des privés ou des institutions sont intéressés par ce projet plus qu'avant?
Je constate un peu les mêmes évolutions, celles qui viennent d'être décrites à l'instant. C'est vrai qu'on a un soutien de plus en plus fort du secteur privé. Nous, les entreprises occupent une place très importante dans le dispositif de notre opération. On a également eu un soutien du Crédit Agricole, donc Crédit Agricole Île-de-France, la Caisse régionale.
Ça revient, ce nom revient dans cette émission.
qui avait permis la restauration de 5 toiles réparties dans la région Île-de-France et des tableaux très importants, un Corot, un Oudry, on avait de grands noms. On a également la Fondation Entreprise Michelin, fondation qui est très investie dans la valorisation des territoires à travers la France et la protection du patrimoine, qui nous accompagne depuis maintenant 3-4 ans. Donc nous, les entreprises ont une place extrêmement importante et d'autant plus importante qu'on est en train de faire évoluer aujourd'hui notre campagne du plus grand musée de France et qu'on propose maintenant à certains groupes d'investir directement leurs collaborateurs dans la campagne. Donc là, au lieu d'avoir des étudiants qui partent à la recherche d'œuvres d'art, qui proposent des œuvres et qui essayent de trouver des fonds pour permettre leur restauration, on a des collaborateurs d'entreprise qui ont la possibilité, pendant leur temps libre, d'être attentifs à leur environnement proche et essayer d'identifier des œuvres qui auraient besoin d'être restaurées, de nous les proposer. Nous, on effectue un travail ensuite pour vérifier la faisabilité du projet et essayer justement derrière de les revaloriser et de les sauvegarder.
Et est-ce que donc des outils innovants comme ceux proposés par exemple par Romain Prévalet, donc Culture Move, sur la connaissance plus approfondie d'une œuvre d'art à travers le numérique, les nouvelles technologies, ça peut potentiellement, alors peut-être pas aujourd'hui, mais dans un futur, vous intéresser ?
Bien sûr, et j'ai envie de dire que nos actions finalement se recoupent et se complètent. On évoquait en introduction lors de chronique ce mécénat presque à double vitesse avec les grands projets très prestigieux et ce mécénat sur les projets peut-être un peu plus petite échelle, ce patrimoine de proximité qu'il faut à tout prix aussi sauvegarder. C'est le but de notre opération du plus grand musée de France, de mettre en lumière ces projets-là. C'est également le but de Culture Move en développant des parcours au sein des villes, de développer aussi l'accès à l'information de manière plus libre. Donc nos actions sont finalement assez similaires et se complètent assez bien.
Alors justement, quand on parle de ce petit patrimoine qui vous intéresse aussi, Romain Prévalet, moins connu du grand public, est-ce que vous avez des exemples ou comment vous sélectionnez, vous, chez Culture Move, les thèmes que vous allez développer, que vous allez mettre en image et mettre en gaming aussi peut-être pour le public?
Oui, c'est ça. En fait, on n'a pas forcément une stratégie très, très claire. Au contraire, on fait appel un peu à notre créativité et à la spontanéité. Tout d'abord, en mettant en place des formes de partenariat avec les institutions, qui sont des musées, des laboratoires de recherche, des sites archéologiques, des collectivités. Ce qui va nous permettre finalement de faire de la veille un petit peu, de découvrir, de faire des découvertes sur leur patrimoine et ensuite de leur proposer sur un sujet bien, bien particulier ou une œuvre particulière de la mettre en avant à travers une scénarisation de storytelling multimédia. Et en fait, on va aussi choisir les sujets que l'on valorise par le potentiel d'appropriation, d'une certaine manière, que ça peut avoir chez les publics. L'idée de ce que l'on fait, c'est de pouvoir proposer une narration et un discours qui soit plus décomplexé, plus décalé, plus fun, entre guillemets. C'est pas toujours facile, mais le choix des sujets aussi permet de toucher des publics différemment. Donc on parle aussi bien... récemment, on a valorisé des archives sur Marie Curie dans le cadre des 150 ans de Marie Curie. On a parlé de lieux religieux, de châteaux, on a parlé de sites archéologiques. On parle prochainement de sport, avec l'ensemble des événements sportifs qui approchent. Donc, on va parler également prochainement de patrimoine gastronomique. Donc il y a du patrimoine gastronomique très, très connu, mais il y en a aussi qui le sont moins. Donc on essaye de sortir un petit peu des sentiers battus et puis d'avoir une approche d'accompagnement auprès des institutions, des acteurs du tourisme et de la culture qui peuvent avoir besoin de ce type de service.
Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que quand on parle de storytelling, on voit aussi que depuis récemment, l'histoire de l'art sort un peu de sa salle d'archives poussiéreuse. L'historien d'art sort aussi du coup un peu de son carcan. Voilà, et ça fait du bien à tout le monde, je pense d'ailleurs. Et c'est vrai que sur comeon.com, l'idée aussi, c'est que vous apprenez, vous, à vos porteurs de projets qui sont parfois peut-être, c'est pas pour critiquer, hein, mais des gens qui savent pas forcément parler d'une manière très justement grand public, de sujets très sérieux. Voilà, vous leur apprenez à comment vendre un peu leurs projets. Quand parfois, par exemple, fonder les cloches à la basilique Notre-Dame la Dorade. Fonder pour les cloches, il faut y aller quand même, pour donner pour des cloches.
C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais moi c'est un aspect du métier que j'adore, c'est quand on se retrouve avec l'équipe d'un musée par exemple, avec le conservateur ou la conservatrice, la personne en charge de la communication, la direction, et on travaille sur justement ce storytelling, cette communication, ce marketing du projet, parce que faut pas avoir peur de ce terme-là. Ça crée parfois, il y a parfois des réticences au départ, je ne vais pas le cacher. Maintenant, ce qui est intéressant à travers ces démarches-là, c'est que sur une collecte en crowdfunding, effectivement, il faut arriver à capter l'intérêt du visiteur du site et potentiel donateur dès les premières secondes. Donc, il faut pouvoir s'immerger, se mettre dans le bain tout de suite à la lecture. Et donc ça demande de pouvoir présenter de manière transparente, attractive, très claire un projet. Pas de manière institutionnelle, donc c'est vrai que parfois certains lieux de patrimoine ne sont pas forcément habitués à cet exercice-là, pardon, mais c'est un super travail de médiation dans le fond. Donc voilà, c'est notre rôle, c'est effectivement d'accompagner ces porteurs de projets dans ce travail de réflexion.
Alors on a parlé beaucoup de la France. Récemment, il y a un article du Point qui est sorti sur la cathédrale Notre-Dame qui, par endroits, se dégrade vraiment de manière critique. Alors là, c'est du patrimoine religieux, justement. Ça m'intéressait un peu de savoir, d'avoir un peu votre regard, peut-être, Lucas Lefebvre, parce que dans cet article, il est dit que, eh bien, pour sauver Notre-Dame, il faut aller aux États-Unis maintenant. Est-ce que vous aussi, vous vous tournez vers des mécènes étrangers? Est-ce que, aussi, c'est une manière, bon, évidemment, de promouvoir le patrimoine de France, mais finalement, parfois, il y a une obligation à aller voir ailleurs. Est-ce que vous avez, vous, ressenti ça?
D'un point de vue historique, les mécènes étrangers ont toujours joué un rôle assez important dans la sauvegarde d'édifices en France. Pour faire un lien avec l'histoire de notre maison, la sauvegarde de l'art français, notre fondateur avait justement récupéré des soutiens et du mécénat en allant aux États-Unis, en allant dans d'autres pays européens pour justement convaincre de l'intérêt de protéger nos édifices et nos œuvres en France.
C'est-à-dire que l'acte de mécénat est plus naturel depuis bien plus longtemps. Peut-être aux États-Unis ou en France, on a mis un peu plus de temps, ça a été un peu plus poussif.
Ce qui est sûr, c'est qu'en France, les choses ont mis un peu de temps avant de se structurer. La culture de la philanthropie et du don est beaucoup plus développée aux États-Unis, même s'il faut le dire, en France, aujourd'hui, on est quand même en train de rattraper notre retard et on a de très belles choses qui se mettent en place. En témoignent aujourd'hui des structures telles que Comeon et Culture Move. Mais Pour revenir au sujet de l'appel aux mécènes étrangers, donc il y a, d'un point de vue historique, il y a des sociétés d'amis franco-américains de Versailles. Donc là, pour la cathédrale de Notre-Dame, il y a effectivement un appel aux dons, et notamment américains. Nous, à la sauvegarde, on a aussi quelques donateurs étrangers. Après, on a la chance pour la protection du patrimoine bâti de pouvoir reposer sur nos ressources propres. Donc le million 5 qu'on distribue par an en faveur de la restauration, c'est de l'argent qui vient de la sauvegarde, donc de l'argent français. mais pourquoi pas, effectivement, ça peut être aussi un levier supplémentaire de faire appel à la générosité européenne et internationale pour soutenir certains projets.
Et vous, Jérémy Fretin, chez comeon.com, est-ce que vous avez beaucoup de dons venus de l'étranger ?
Alors ça, les dons venus de l'étranger représentent une part assez significative des montants collectés sur la plateforme. Tout dépend du projet. C'est vrai que là, j'ai en tête un projet qui était porté par le musée d'Aquitaine pour la restauration du cénotaphe de Montaigne. figure éminente bordelaise. Et sur cette campagne, voilà, quand on réfléchissait un petit peu à toutes les communautés qui pouvaient être intéressantes à activer sur cette opération, on a vu qu'il y avait des amis de Montaigne aux États-Unis. Et donc voilà, ça fait partie des interlocuteurs qui ont soutenu et relayé la campagne sur d'autres territoires. Donc bien sûr, après, le patrimoine, il est mondial. Hein, donc tant qu'on peut arriver à fédérer des énergies, même au-delà du territoire français, c'est, j'en veux dire, tant mieux.
Et alors, quand on est une start-up, Romain Prévalet, chez Culture Move, j'imagine qu'il y a aussi une recherche un peu à l'extérieur pour éventuellement sensibiliser des mécènes.
Oui, effectivement. Nous, ça nous est déjà arrivé, il y a assez peu d'ailleurs, d'être sollicité soit par des institutions basées à l'international, en Amérique du Nord notamment, ou en Afrique, pour mener des projets de valorisation au sens large, et puisque finalement ces institutions partagent de manière générale les mêmes contraintes que celles que l'on peut rencontrer en France, on les accompagne aussi dans la recherche de financement, et notamment auprès de mécènes. Aujourd'hui, on lance un projet actuellement en Tunisie, on n'a pas de projet concret de mise en place de mécénat avec des mécènes étrangers, mais je pense que ça devrait venir assez rapidement, puisqu'on est dans une approche où en fait on essaie de mutualiser les collections, et donc la médiation autour de collections qu'on peut trouver en France mais aussi ailleurs. Donc on espère pouvoir les solliciter à un moment donné.
Alors on arrive au terme de l'émission. Merci à tous les quatre d'avoir été là. On peut évidemment pas brosser tous les aspects, disons, de ce thème qui est très vaste, hein, le mécénat culturel, et plus précisément évidemment la sauvegarde du patrimoine, notamment du patrimoine en danger ou des œuvres un peu moins connues. Merci Lucas Lefebvre d'avoir été là, donc chef de projet pour la sauvegarde pour l'art français, donc cette association, maintenant fondation, qui existe depuis 1921. Vous êtes un acteur fondamental dans le domaine et vous impliquez des étudiants pour sauver aussi notre patrimoine. Donc ça, c'est une très belle idée. Depuis 2013, c'est la campagne du plus grand musée de France. Marie Moutarde, vous faites partie de ces étudiants. Bon courage pour trouver le reste des fonds pour restaurer donc votre Pietà qui se trouve dans la chapelle Saint-Louis de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, qu'on peut aller voir justement. Merci Jérémy Fretin, vous êtes donc chargé de développement chez Comeon.com, une plateforme de crowdfunding qui est particulièrement intéressée par tous ces porteurs de projets qui cherchent des fonds pour sauver le patrimoine également. On peut retrouver donc tous vos projets sur Comeon.com. Il y en a en ce moment en cours, hein, qui concerne le patrimoine. Et Romain Prévalet, merci d'avoir réussi à venir malgré les difficultés de transport pour nous présenter donc votre aventure Culture Move, qui est aussi donc une application qu'on peut retrouver
sur les stores Android, Apple Store et sur le web également.
Voilà, et qui parle aussi de patrimoine et de sa valorisation. Merci à tous les quatre.
Merci.
C'est la fin
merci
de cette émission. C'était donc le Club Art District sur Art District Radio. Très belle journée à tous.
Merci.